Bienvenue à tous dans le Mac de l'été.
Ouvrez-moi cette porte où je frappe en pleurant. La vie est variable aussi bien que le RIP. Tu regardais un banc de nuages descendre avec le paquebot orphelin vers les fièvres futures. Et de tous ces regrets, de tous ces repentirs, te souviens-tu? Vagues poissons arqués, fleurs surmarines. Une nuit c'était la mer et les fleuves s'y répandaient. Je m'en souviens encore. Un soir, je descendis dans une auberge triste auprès de Luxembourg. Dans le fond de la salle, il s'envolait un Christ. Quelqu'un avait un furet, un autre un hérisson. L'on jouait aux cartes. Et toi, tu m'avais oublié. Te souviens-tu du long orphelinat des gares? Nous traversâmes des villes qui tout le jour tournaient et vomissaient la nuit le soleil des journées. Ô matelots, ô femmes sombres, et vous, mes compagnons, souvenez-vous-en. Deux matelots qui ne s'étaient jamais quittés, deux matelots qui ne s'étaient jamais parlé, le plus jeune en mourant tomba sur le côté. Ô vous, chers compagnons, sonneries électriques des gares, chants des moissonneuses, traîneaux d'un boucher, régiments des rues sans nombre, cavalerie des ponts, nuit livide de l'alcool, les villes que j'ai vues vivaient comme des folles. Te souviens-tu des banlieues et du troupeau plaintif des paysages?
Bonjour Olivier Rollin.
Bonjour.
Quel est le texte que vous venez de nous lire?
C'est un poème d'Apollinaire qui s'appelle « Le voyageur ».
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le Mac de l'été, le magazine culturel de vos débuts de soirée sur France Inter. Depuis le début de la semaine, on sent une certaine effervescence à la Maison de la Radio. Ces couloirs s'animent chaque jour, un peu plus, pour que, dès lundi, la grille de rentrée reprenne ses quartiers. Alors la fin août est aussi le moment où la littérature fait sa rentrée, avec cette année 336 romans français à paraître d'ici octobre. Dans le Mac de l'été, ce n'est pas avec un jeune perdreau, mais avec un vieux briscard que nous avons choisi de la célébrer. Olivier Rollin est l'auteur de 12 d'ouvrages, romans, récits, géographies, graphique et essai. Il fera sa rentrée et son entrée chez Gallimard le 29 août avec Extérieur Monde, une récapitulation, ce sont ces termes, pas une capitulation, loin de là, qui nous embarque à cheval, un cheval inaugural dans sa géographie personnelle, depuis les Açores jusqu'en Sibérie en passant par la Chine, le Portugal, le Soudan, l'Argentine et bien d'autres encore contrées dans le voyage de sa vie, la vie qui est, je le cite, un arbre infiniment ramifié et feuillu. Une chevelure immense.
France Inter. Duh. Le Mac de l'été. Anna Sigalevitch.
Olivier Rollin, pourquoi vous avez choisi d'entrer dans l'émission avec nous, avec ce poème d'Apollinaire?
Parce que j'aime beaucoup Apollinaire. Mm-hmm. Parce que c'est pour moi un des... Oui, un de ceux qui... Enfin, il y a des expressions que je n'aime pas trop, comme le génie de la langue française, par exemple. On ne sait pas très bien ce que ça veut dire. Alors, on dit c'est Racine, c'est Apollinaire. C'est... Mais en tout cas, voilà, il y a une beauté propre. Je pense que c'est un des plus grands poètes en langue française pour moi. Et d'autre part, ce poème s'appelle Le Voyageur. Et tout de même, il y a pas mal de voyages dans
votre
livre,
vie et dans le livre.
Dont on va parler, dont vous m'avez invité à parler.
Thank you.
Suave sia il vento, trio à l'acte 1 de Così fan tutte, donc de Mozart. Là, on vient de l'entendre par Brinterfeld, Mia Person et Christine Rice. Hein, c'est Charles Mackerras qui dirige l'orchestre de chambre d'Écosse. Si j'ai choisi de vous faire entendre ce morceau, c'est parce que je crois que vous l'aimez beaucoup, Olivier Rolland.
Oui, j'adore littéralement. Oui. D'abord, j'aime beaucoup Così, mais j'adore cet air. Je l'évoque dans le livre. D'ailleurs, oui. C'est une des musiques que j'écoutais de façon un peu répétitive. Enfin, une fois où j'étais hospitalisé et
à la Villa Médicine.
À la Villa Médicine, oui, j'étais hospitalisé un peu comme cinglé, enfin comme dépressif, en tout cas disons. Et c'est là que j'ai écrit un de mes livres. Enfin, j'ai écrit l'essentiel d'un de mes livres qui s'appelle Port Soudan. Et j'écoutais des musiques et des Così et puis Così fan tutte et puis des choses de Schubert et puis la messe en nut et puis etc. et puis
oui, vous parlez de César Franck, de
voilà, oui, la sonate de César Franck aussi, bien sûr, que j'adore aussi littéralement.
Est-ce que Olivier Rolland, c'est des musiques, vous parlez, vous dites ça pour des paysages, mais est-ce que ça apaise votre âme d'entendre ce trio?
Oui, totalement. Enfin, ça l'apaise, mais quelquefois au bord des larmes. Des larmes assez paisibles, quoi.
Olivier Rolland, vous commencez votre livre par une vision inaugurale qui est celle d'un cheval, un cheval aux Açores, et vous dites que votre livre, vous souhaitez qu'il soit comme cette vision, aussi insolite qu'inattendue.
Oui. Oui, je ne sais pas si j'y suis parvenu, mais en tout cas, tout ce que je dis est vrai d'abord, mais tout ce que je dis, notamment au début, est absolument vrai. C'est-à-dire que cela faisait, je sais pas, un an ou je me rends plus compte, un an ou deux que j'avais en tête un livre qui serait fait de multiples éclats de visions du monde, comme ça, de scènes dans le monde entier, de visages, de paysages, etc. Mais je ne savais pas du tout comment m'y prendre. Je savais même pas du tout si c'était une bonne idée. Enfin, et un jour j'en ai eu marre et j'ai pris cette scène-là que je trouvais assez belle, bien qu'elle soit une scène muette. Enfin, voilà, il y a un cheval avec ses bidons de lait, un cheval sans cavalier, les bidons de lait qui tintinent à bulles sur ses flancs et qui grimpe un chemin avec l'océan derrière. Et j'ai commencé par là, en me disant, on va bien voir si ça dure 2 pages, 10 pages.
Si ça marche.
Ou si ça devient un livre. Et donc, je me laissais, en effet, traîner par ce cheval inaugural et par les mots, quand même.
Et par les mots. Et dans votre livre, il y a vraiment, dès le départ, hein, vous l'expliquez, donc vous ne savez pas où ça va aller. En tout cas, il y a une écriture très au présent et vous mettez vraiment le lecteur dans la fabrique en direct de l'écrivain. Enfin, il y a quelque chose qui s'écrit tout le temps au présent. Et alors, vous passez... Bien sûr, comme à votre habitude, votre temps a digressé, mais vous revenez nous chercher, vous vous adressez à vous-même et vous vous adressez à nous tout le temps. Enfin, c'est-à-dire que vous nous mettez vraiment avec vous dans la fabrication de cette histoire qui se raconte.
Oui, parce que, en effet, j'avais un tel... Au début, l'histoire de ce livre, l'existence de ce livre au début, c'était pour moi l'existence d'une question, quoi. C'était, vais-je y arriver et que veux-je dire? Et donc je pouvais faire autrement, mais j'ai trouvé, je ne sais pas, juste sincère de vous mettre dans le bain, quoi. Oui, je dis aussi, je me jette à l'eau et voilà, et ben jetez-vous, soyez à patauger dans l'eau aussi, voilà.
Nous lecteurs. Alors il y a une chose. Enfin, faut dire que votre livre est profondément émouvant, il est très instructif comme toujours, mais il est aussi très drôle, et il est très drôle dès les premières pages, où quand vous écrivez, vous dites une chose, voilà, vous dites, ce que je fais, c'est un exemple de ce qu'il ne faudrait pas faire, de ce que on enseignerait comme à bannir, à proscrire, dans des cours de creative writing.
Oui.
Pourquoi?
Parce que je pense, en effet, le type qui commence par dire « je sais pas où je vais, je me lance à l'eau, on verra si ça tient 10 pages ». Je crois que, en effet, aucun prof dans une école, un cours de creative writing n'accepterait cela. Je veux dire, je pense que c'est exactement ce qu'il faut pas faire.
Mais en même temps, est-ce qu'il faut pas créer de l'empathie tout de suite?
Ce qu'il faut faire, c'est ce qu'il faut pas faire. Enfin, je veux dire... dans la littérature comme dans beaucoup de choses.
Alors, on part tout de suite vraiment dans des contrées lointaines. Hein, on voyage énormément dans le livre en permanence. Il y a des tonnes de villes qui font rêver, hein, juste en les voyant écrites par vous, que vous avez vraiment visitées. Je vous propose qu'on écoute un écrivain qui a beaucoup, beaucoup voyagé et qui, comme vous, pense que la curiosité est à peu près la BCD de l'écrivain. C'est Blaise Cendrars.
J'ai rien préparé du tout. Je suis parti un beau matin parce que j'en avais assez. Je partais parce que j'avais envie de m'en aller. J'en avais marre. Je suis parti vers l'Est parce que le premier train à passer m'amenait vers l'Est. Mais si ça avait été un train qui m'eût mené vers l'Ouest, j'aurais débarqué à Lisbonne, j'aurais fait l'Amérique au lieu de faire la Chine. Est-ce que je sais, moi,
en tout cas, ce qu'il faut souligner de votre fuite, c'est que vous n'obéissiez pas au démon de la fugue, à une crise sentimentale.
Ah non, aucune crise sentimentale.
Pas d'attitude littéraire non plus.
Non.
Vous aviez simplement la vocation d'être un homme vivant, c'est-à-dire de briser ou de bronzer votre âme.
Si vous voulez, mais je n'en crois rien.
Briser ou bronzer votre âme. Alors ce que dit Blaise Cendrars au micro de Michel Manol en 1950, c'est une archive de l'INA, il parle de fuite et il parle aussi un peu de hasard. La première fois que vous êtes réellement parti, bon, il faut dire que vous avez grandi pas mal au Sénégal, qu'avant vous étiez aussi au Congo, quand vous étiez minuscule, mais enfin en tout cas, oui, vous étiez tout petit quoi. Et vos premiers souvenirs vrais, je veux dire, ils sont plutôt au Sénégal. Mais ensuite, donc, vous étiez à Paris et votre premier voyage finalement, c'est pas réellement vous qui l'avez choisi. Vous vous êtes pas dit, tiens, je vais devenir un grand voyageur. Non, vous avez été envoyé.
Oui, enfin, juste une remarque à propos de Sandra. C'est drôle parce que j'ai failli choisir comme texte pour commencer l'émission. Là, j'ai failli choisir le poème qui dit « Quand tu aimes, il faut partir », etc.
Ah.
Voilà. Bon, mais oui, je...
Bah, vous parlez un petit peu de Sandra dans le livre.
Oui,
c'est possible. Oui, deux fois.
Oui, oui. Si, c'est quand même, enfin, c'est-à-dire qu'on m'a envoyé, en effet, comme journaliste, enfin, une espèce de journaliste en Argentine, au moment de la guerre des Malouines, voilà. Et c'était le Nouvel Observateur qui m'avait envoyé là-bas, ce qui était un acte de foi et un acte de extravagant, parce que je ne parlais même pas espagnol à l'époque. Bon, j'ai appris l'espagnol sur le tas là-bas. Mais enfin, ils m'ont envoyé là-bas parce que je leur avais dit, ils étaient très sains, je connaissais des gens à l'époque dans ce journal, et je leur avais dit, je veux absolument partir. Voilà. C'était quand même
une obsession dès le départ. Donc en Argentine, après, bon, on va le voir, vous avez beaucoup beaucoup voyagé. Vous dites aussi que c'est quand même une façon, partir, c'est quand même une façon de s'effacer, c'est quand même une façon de disparaître, c'est quand même une façon d'essayer d'aller quelque part quand on ne trouve pas réellement sa place chez soi. Enfin, s'il y a un chez soi.
Oui,
quand on ne trouve pas son chez soi, justement.
Oui, je suis un peu, je suis un peu asocial, oui, enfin, asocial, je suis pas un bandit de grand chemin, hein, mais enfin, le fait est que
s'établir est une chose pas évidente
voilà,
pour vous.
Voilà, j'ai du mal
en tout cas.
À appartenir à quelque chose, même je n'ai pas proprement parlé de famille, enfin, c'est pas rentrer dans des détails de ma vie privée, mais enfin voilà, j'ai peu de choses à part l'amitié, l'amour quelquefois, mais que justement quand comme dit Sandra, quand tu aimes il faut partir, bon, peu de choses m'attachent véritablement, et donc je me sens tout à fait pas plus déplacé, disons, si je suis en Amérique du Sud que si je suis à Paris.
Et vous avez quand même un goût pour les endroits qui sont pas évidents, qui sont pas recommandables, qui sont à la fois extrêmement du coup intrigants et attractifs.
Enfin, si on y est sensible. Ça c'est vrai. Oui, c'est peut-être un peu un snobisme, mais enfin c'est un snobisme acceptable.
Une forme de snobisme acceptable.
Voilà, je préfère, c'est vrai, être au Kamchatka qu'en Toscane, je trouve qu'il y a de beaucoup plus belles choses en Toscane. J'aime bien être en Toscane aussi, mais enfin bon, mais j'aime bien dans les endroits où je ne rencontre pas, je rencontre des semblables, puisque tous les hommes et les femmes sont semblables, mais mais des semblables qui sont quand même très dissemblables. Et je n'aime pas retomber sur les miens, sur ma langue, sur, même si c'est reposant quelquefois, mais sur mes habitudes alimentaires, enfin sur toutes ces choses qui font comme ça le milieu, la coutume, voilà, il faut se débarrasser de tout cela, et donc être au diable, ça
permet ça.
Ça me plaît. Voilà.
Ça induit ça. Ouais. Ouais. Alors Olivier Rollin, la littérature est absolument partout. J'allais dire intérieur monde, c'est drôle. Parce que, bon, il y a quand même beaucoup de... Bon, bref,
oui,
on y viendra après.
Aussi,
mais... Oui, intérieur aussi. Dans extérieur monde, elle est présente absolument partout avec plein d'auteurs que vous évoquez. Mais vous dites que pour vous, de toute façon, quand on aime la littérature, elle est absolument partout.
Oui, bien que j'ai une très mauvaise mémoire, et je ne le dis pas pour... C'est pas pour me faire plaindre, oui. C'est vrai. Mais oui, en effet, il y a peu de situations du monde qui n'évoquent... On a déjà lu ça quelque part. On a lu quelque chose qui s'en approche. Il n'empêche que le monde reste tout à fait bouleversant et tout à fait étonnant.
Oui.
Mais la littérature, quand on l'a... pratique, quand on la lit, etc., depuis longtemps, quand on l'aime, quoi, est une formidable archive de ce qu'on n'a pas encore vu.
Une archive et aussi un compagnon, quelque part, parce qu'on sent qu'elle vous accompagne énormément, que voilà, votre solitude atténuée par tous les auteurs qui vous accompagnent et toutes les idées qui vous viennent en permanence. Alors, il faut qu'on parle d'une chose qui est très importante dans le livre, c'est les carnets. Parce qu'en fait, donc là vous venez de me dire, mais j'ai très mauvaise mémoire, et vous commencez à raconter beaucoup vos voyages, et vous dites, mais attendez, vous pensez que j'ai une mémoire formidable, mais pas du tout. En fait, ma mémoire, j'ai une très mauvaise mémoire, mais j'ai noté les choses. Et là, je trouve que c'est une chose qui est très importante aussi quand vous parlez de ces carnets, parce que vous rentrez dans les carnets en parlant de trois écrivains. Qui sont Barthes, qui sont Benjamin et qui sont Flaubert. Parce que pour vous, donc, je vous laisse, je vous laisse
oui.
Peut-être.
Benjamin, c'est à cause d'une phrase qui dit à peu près. Alors vous allez voir que ma mémoire est mauvaise, mais je vais la citer à peu près quand même, qui dit qu'on ne voit réellement quelque chose, un paysage, etc., que quand on a trouvé les mots pour le décrire, et qu'à ce moment-là, le réel s'imprime en quelque sorte comme sur un plateau de cuivre dont repoussé, c'est-à-dire où on martèle et où le relief des choses apparaît.
Bon, pour Flaubert.
Voilà. Alors ça c'est Benjamin qui dit cela.
Ouais,
ouais. Je trouve cette idée, enfin cette métaphore extrêmement vraie. Et puis Flaubert, ben c'est toute cette folie de la recherche du mot exact. Il y en a qu'un, etc. Bon, c'est vraiment l'aiguille dans la meule de foin,
Et vous dites même qu'un écrivain ne voit vraiment que lorsqu'il a trouvé les mots pour dire
oui.
ce qu'il voit.
Alors ça, c'est Benjamin le dit, et Flaubert ajoute s'il a trouvé le mot exact. Là, il n'y en a pas 36.
Ouais,
et
ouais.
Alors Francis Ponge dit la même chose. Je crois, je cite pas Ponge là-dedans, mais
non.
Bon. Et puis voilà. Et puis le troisième, c'était
C'était Barthes.
Ah oui, Barthes. Ah oui, Barthes. Parce que je pense à l'histoire du punctum dans la photo, quoi. Voilà. Et il faut, quand on prend des notes, il faut que il y a plein de choses qui ne serviront à rien. Il y a plein de choses qui sont des feuilles de salade, quoi, si j'ose dire. Et puis, il y a quand même quelques mots qu'on va trouver, dans le meilleur des cas, et qui feront qu'ensuite l'impression pourra se redéployer des années après. Là, j'ai relu des carnets que j'avais écrits il y a 30 ans, enfin.
Alors, Barthes, il est très présent, hein, tout au fil du livre. Je vous propose qu'on écoute.
L'intellectuel est quelqu'un qui témoigne sans cesse du présent, de l'histoire, de son histoire, mais qui en même temps témoigne contre le ou les pouvoirs de cette histoire. Je dirais que l'intellectuel est quelqu'un de présent, d'insistant dans le monde, mais en même temps qui est finalement exclu. Et je pense que ça, c'est la vocation juste de l'intellectuel. Et dans la mesure où mon livre, disons, prend en charge une certaine marginalité, une certaine déviance, si je puis dire, par rapport à la mode, eh bien, c'est un livre qui est un livre d'intellectuel. Mais en même temps, j'ai tenu à ce que ce soit un livre écrit, qui soit pris dans le travail d'une véritable écriture, et non pas simplement la délivrance d'un simple message intellectuel, parce que je crois que, au fond, aujourd'hui, l'écriture, le travail de l'écriture, le travail du texte, comme on dit, a une valeur militante, en quelque sorte, a une valeur de dissidence, et au fond, nous découvrons de plus en plus que la tâche véritable de l'intellectuel, aujourd'hui, dans nos sociétés, c'est d'être un dissident.
Roland Barthes, donc en 77, au micro de Jean-Louis Bout, c'était aussi une archivina. Là, il parle de fragments du discours amoureux. Je trouve que c'est une chose qu'on pourrait... est-ce que vous pourriez reprendre à votre compte aujourd'hui, donc plus de 40 ans plus tard, c'est ce que dit Roland Barthes, Olivier Rollin?
Oui, essentiellement, oui.
Oui.
Et notamment, alors je pense à des textes, maintenant, je me souviens plus exactement lesquels, mais peut-être dans le cours du Collège de France, la préparation du roman, je sais plus. Mais en tout cas, où il dit que la langue de l'écrivain, dès lors qu'il prend son travail d'écrivain au sérieux, la langue de l'écrivain le sépare des autres, le sépare de la langue commune. Bon, que c'est un état de divorce, on voudrait bien qu'il ne soit pas trop grand, mais évidemment que si l'on prend la littérature au sérieux, si on prend la langue au sérieux, nous nous séparons du parler ordinaire et même de l'écrire ordinaire.
Et ça, vous y faites référence dans Extérieurement d'Olivier Rollin, quand vous parlez de la beauté littéraire qui est à l'opposé de l'idée vulgaire du page-turner.
Ouais.
Je dois vous faire une confidence. Voilà, en ce moment, je fais une quotidienne, donc j'ai beaucoup de travail. Et donc, de lire des livres de 300 pages comme le vôtre, c'est pas forcément une chose évidente quand on doit faire tous les jours.
Ouais.
Et en fait... J'ai essayé de lire votre livre vite et je n'ai pas pu.
Ah.
Parce qu'on ne peut pas lire votre livre vite, ce n'est pas un page-turner. Et c'est justement toute la beauté de ce livre, c'est qu'il faut s'arrêter, il faut prendre le temps de le lire, parce que sinon on ne peut absolument pas en savourer pas la beauté, les sens et la profondeur.
Oui, mais je vous remercie de me dire ça.
Non, mais c'est vrai. Je me suis retrouvée concrètement confrontée à ce problème de lecture rapide.
Mais donc, un vrai livre, et j'espère que c'en est un vrai livre, c'est un livre loin qu'il vous invite à aller de plus en plus vite vers la fin. Il vous invite au contraire tout le temps à s'arrêter et à relire cette page, à se dire nom de Dieu, c'est bien ça. Comment est-ce que
c'est ça.
Voilà. Comment est-ce qu'il a fait donc il y a une puissance de freinage dans la littérature, alors que bon, les page turner en effet, il faut aller, mais je ne méprise pas non plus il y a des livres, c'est bien aussi de savoir qu'est-ce qui se passe à la fin, etc. Mais c'est pas tout à fait la même chose.
Oui, mais vous vous amusez aussi avec votre propre personnage, aussi un peu à jouer aux anciens combattants, quoi. Il y a quelque chose qui est comme, enfin, j'ai l'impression beaucoup d'ironie permanence, je pense que vous faites un peu semblant, vous n'y croyez pas totalement vous-même que vous êtes un ancien combattant, parce que d'ailleurs vous dites que vous revendiquez le fait d'être un écrivain moderne, que vous ne revendiquez aucune modernité à part celle d'un écrivain moderne.
Pour beaucoup de choses, je ne suis pas très moderne, mais comme écrivain, j'espère l'être. Oui.
Alors on va écouter un écrivain qui est moderne aussi, qui est plus jeune que vous, c'est Mathias Sénard.
Oui.
Bonjour Mathias Sénard.
Bonjour.
Alors c'est, je crois, à Beyrouth que vous avez découvert les premiers textes d'Olivier Rollin. Vous étiez en voyage là-bas et puis vous êtes tombé sur deux romans qui vous ont attiré, c'est bien ça?
Oui, exactement. Les premiers livres que j'ai lus d'Olivier Rollin, c'était Porcelan et l'invention du monde.
Alors vous êtes unis tous les deux à la fois par le goût de l'histoire et par le goût de la géographie.
Oui, c'est vrai. Alors peut-être plus que moi. Mmh. Pour ce qui est de la géographie, puisque c'est quelqu'un qui a vraiment beaucoup voyagé, qui connaît absolument, je pense, presque l'ensemble de la planète, ou pas loin, des zones de guerre, de conflits, comme l'Afghanistan, Sarajevo pendant le siège, ou les bars de Buenos Aires. Donc lire ou parler avec Olivier Rollin, c'est aussi profiter de tous ces voyages. Et c'est vrai que moi qui suis pas du tout, ou pas trop, voyageur ou écrivain voyageur, c'est toujours magique de le lire ou de lui parler, parce qu'on a l'impression de voyager un peu par procuration.
Est-ce que vous avez déjà voyagé ensemble ?
Oui, alors j'ai eu la chance d'aller avec lui à Saint-Pétersbourg, à Moscou. Donc c'était vraiment tout à fait passionnant.
Comment il est quand il est en Russie ? Parce qu'il met souvent des petits mots de russe dans ses livres, etc. Est-ce qu'il devient autochtone ou est-ce qu'il se transforme quand il est ailleurs ?
Il devient non seulement autochtone, mais en plus, c'est un excellent guide. Il adore expliquer, raconter, faire partager justement ce que lui il connaît. Donc voyager avec lui, c'est extrêmement agréable.
Et qu'est-ce qui se révèle de lui quand il est ailleurs ?
Son immense curiosité, je pense d'abord. Et puis sa très très grande érudition, c'est-à-dire que dès qu'on se trouve quelque part, c'est le prétexte à citations, références. Et donc c'est un peu voyager avec une encyclopédie vivante.
Olivier Rollin est écrivain bien sûr, mais il est aussi éditeur. Vous êtes écrivain, Mathias Sénard. Je rappelle que vous êtes pris Goncourt pour votre livre Boussole. En tant qu'auteur, est-ce que vous lui faites lire vos manuscrits ? Est-ce que son regard, le regard qu'il porte sur vos textes est important pour vous ?
Oui, alors c'est très important pour moi. Et au début, effectivement, je me fais lire même les livres avant qu'ils soient publiés. Remonter le Rénoch, il l'avait lu, mais j'aurais adoré être édité par Olivier Rollin. Voilà, ça s'est pas fait parce que moi j'avais déjà un éditeur et quand on s'est rencontrés, mais c'est sûr qu'il aurait pu tout à fait le devenir.
Quel est son regard, l'acuité de son regard, la particularité de sa lecture ?
Ben, je pense que c'est quelqu'un, un lecteur extrêmement précis. Il a une vraie passion de la langue et un vrai souci de l'expression, de la folie de la langue. Un vrai plaisir, en fait, à profiter d'une écriture, à en découvrir les recoins, les vagabondages. Disons qu'il a une vraie passion pour la littérature et une vraie culture qui lui permet justement de lire les textes à la lumière des 100 000 livres qu'il a déjà lus. Et donc ça lui donne, je pense, une puissance comme lecteur et comme éditeur assez inouïe.
Merci beaucoup Mathias Sénard, à bientôt.
À bientôt, au revoir.
Bon, c'est très touchant ce que
ouais, c'est touchant.
ce que dit Mathias Sénard, oui. D'autant plus que c'est un type extrêmement érudit lui-même.
Oui.
J'ai découvert d'ailleurs, par exemple, dans Boussole, qu'il était également très musicologue, enfin ou très calé en musique, enfin, beaucoup beaucoup plus que moi. Et d'autre part, c'est un linguiste. Enfin, je veux dire, il parle pas non seulement l'arabe, mais le persan, etc. Enfin, bref. Donc, c'est quand même pas un ignorant qui donne ce témoignage.
Non, mais...
C'est un témoignage excessif. D'ailleurs, je n'ai pas lu 100 000 livres.
Oui, enfin, vous avez quand même beaucoup lu. Enfin, en tout cas, c'est ce qu'on sent. Et c'est là aussi. Enfin, je voudrais venir aussi à ça, à la transmission et à la générosité, en fait, qu'on ressent dans votre livre, à partager, en fait, tous ces héros de littérature qui peuplent totalement votre imaginaire depuis toujours. Et ça, vous les transmettez. Et vous les transmettez aussi aux gens que vous rencontrez dans les voyages. L'idée de la transmission, elle est essentielle chez vous, Olivier Rollin.
Oui, mais je pense que la littérature, enfin, je n'aime pas dire sert à ceci ou cela parce que ça il faut considérer aussi que ça aussi bien que ça ne sert à rien, mais que c'est beau quand même. Mais tout de même, je pense que nous sommes, on ne peut pas avoir un esprit complètement indépendant, complètement libre, etc. On ne pourrait pas avoir ça si on n'était pas, s'il n'y avait pas la littérature. Mmh. Si la littérature ne nous apprenait pas justement ce qu'est le monde, ce qu'a été le monde, si un homme ne pouvait pas savoir ce que c'est qu'une, il sait ce que c'est qu'une femme d'une autre façon, mais je veux dire se mettre dans la peau d'une femme, etc. Enfin, tout cela, cette multiplication des intelligences et des corps, c'est la littérature qui nous le permet.
Et inversement, je dirais que, enfin en tout cas, vous le dites dans votre livre, la littérature permet aussi de faire vivre les rencontres et tous ces gens qui ont peuplé votre vie.
Oui.
Ça marche dans les deux sens.
Ça marche dans les deux sens, mais en tout cas, on a eu quelque chose comme un devoir, enfin j'en sais rien, peut-être pas un devoir, mais enfin bon. En tout cas, c'est bien de penser qu'on apprend, qu'on transmet des choses aux gens, voilà. Oui, ça anime, ça donne du courage.
Mathias Sénard avait une question à vous poser, mais on n'a pas le temps de la diffuser parce qu'on est en retard, qui était quel rapport vous entretenez avec les mémoires d'outre-tombe de Chateaubriand, qui parcourt absolument tout le livre aussi. Hein.
Oui.
Vous refusez le terme mémoire pour le livre, refusez le anti-mémoire parce que vous dites c'est sûrement
bien
pris.
Sûr, hein.
Voilà, donc vous parlez plutôt de récapitulation et pas de capitulation, comme je le disais au début. En tout cas, voilà. Est-ce que quelle réponse vous souhaitez donner à Mathias Sénard?
Il y a beaucoup de choses qui se passent. Sans qu'on le cherche vraiment dans les livres. Hein. Alors, cela dit, Chateaubriand est les mémoires, c'est un texte important pour moi, et c'est un auteur important pour moi. Mais je ne pensais pas qu'il s'y retrouverait si souvent. Et par exemple, tout à fait à la fin, je retombe sur lui, tout à fait à la fin, dans la dernière page. C'est vrai que c'est une surprise.
Ouais, c'est drôle,
je m'attendais pas
dites,
du tout à le retrouver là. Bon.
Parce que le livre commence aux Açores et termine.
Voilà, il termine aux Açores, et tout d'un coup, je me dis, mais bon sang, Chateaubriand aussi est passé aux Açores. Enfin bon, en fait. Il est très important pour moi parce que je suis bien sûr je connais ses ridicules, je connais sa pose, je connais la façon dont il a arrangé l'histoire à son avantage, etc. Il y a des pages admirablement belles dans les Mémoires d'Outre-Tombe. C'est aussi un de ceux qui ont fait de la langue française une très grande langue, quoi. C'est un prosateur, mais c'est un poète aussi. Enfin, même si ses poèmes sont absolument exécrables, hein, je veux dire. mais sa prose est parfois très poétique. Je partage d'ailleurs ce point de vue avec Barthes, qui était un grand admirateur de Chateaubriand. Bon, en plus, il est breton. Moi, je suis breton aussi. Mais enfin, ça, franchement, ça compte pas beaucoup.
J'ai une dernière petite question. Est-ce que ce livre, Extérieur au monde, a une place particulière dans votre œuvre, Olivier Rolland? Est-ce que vous sentez ça au moment où vous l'avez écrit?
Oui, il a une place particulière parce qu'en effet, il est une. Enfin, je vous avais cité le mot de récapitulation. Oui. Alors, c'est pas du tout c'est pas un inventaire avant fermeture, hein.
Non, vous le dites bien à la fin, vous rebellez voilà. Immédiatement bon. Contre
Mais
l'idée
c'est
de l'inventaire.
Tout de même, là, je ressaisis pas mal de choses de ma vie uniquement surtout sur le mode de la vie errante, enfin, la vie. Voilà. Je me livre plus que tout de même. Et là aussi ça m'a presque un peu échappé, mais je livre certaines choses même sur ma vie privée, enfin bon, pas beaucoup.
Vous n'osez même pas le dire, vous le prononcez pas pour privé.
oui non ça ouais. Pas trop, pas beaucoup à mon avis, mais enfin un peu quand même, plus que d'habitude, et donc il est assez différent de des autres, et j'espère qu'il... Bon, il se trouve en plus que je le fais chez un autre éditeur,
oui, chez Gallimard,
tout cela fait une espèce de recommencement,
de nouveauté, de recommencer, et c'est un très très beau recommencement. C'est le moment de nous pencher sur l'actualité des jours à venir, l'actualité culturelle. On va se concentrer aujourd'hui sur le festival d'Angoulême qui célèbre le cinéma francophone. Alors cet après-midi, les festivaliers ont pu voir le film Barrage de Laura Schroeder avec Lolita Chama. Et en ce moment même est projeté le film de Stéphane de Moustier, La fille au bracelet, en compétition. Un très beau film qu'on pourra voir aussi demain à 14h et samedi à 18h. Stéphane de Moustier est venu nous en parler, on l'écoute. Bonjour Stéphane de Moustier.
Bonjour Alain Sigalevitch.
Alors vous présentez en ce moment, le film a d'abord été présenté au festival de Locarno et puis maintenant au festival d'Angoulême jusqu'à samedi, votre troisième long métrage, La fille au bracelet. C'est un film qui est inspiré d'un fait divers qui s'est passé en Argentine, c'est ça?
Oui, c'est un fait divers qui s'est passé en Argentine, un fait divers sur lequel j'ai pas enquêté, mais qui a agi comme un déclencheur chez moi. On m'a parlé de ce fait divers, l'histoire d'une fille qui avait 16 ans, qui est accusée d'avoir tué sa meilleure amie. Et je me suis dit que ce serait passionnant de vivre cette histoire du point de vue de ses proches. Pas de son point de vue à elle, mais du point de vue de ses proches. Et donc le film propose cette expérience-là. On vit le procès et on est dans la peau de ceux qui entourent cette jeune fille.
Alors ceux qui entourent cette jeune fille, donc il y a ses parents, Chiara Mastroianni et Roche Dizem.
Exactement.
Elle s'appelle
Mélissa Guerre, c'est la jeune actrice. Mmh. Son personnage s'appelle Liz. Ses deux parents sont Roche Dizem, Chiara Mastroianni. Et puis, l'essentiel du film se passe au tribunal. C'est vraiment un film de procès. Donc, elle a aussi à faire face à toute l'instruction avec un président qui est joué par un grand pénaliste qui s'appelle Pascal Pierre Garbarini, qui joue le rôle du président de cour d'assises pour le film. Avec
qui est vraiment un pénaliste,
mais qui là joue le rôle d'un président de cour d'assises qui manque pas d'ironie. mais qu'il a fait avec brio et avec, je pense, beaucoup de
crédibilité
de plaisir.
Et de crédibilité. Ça, on y croit complètement.
Il y a Annie Mercier, qui est une merveilleuse avocate de la défense, avec sa voix envoûtante et rassurante. Et puis il y a Anaïs de Moussier, ma sœur, qui joue l'avocat général, donc qui porte l'accusation et qui est un avocat général terrible, sans pitié pour la pauvre Mélissa Gers.
Alors c'est intéressant que ce soit Anaïs de Moustier qui joue donc l'avocat général, parce que d'une part c'est la plus jeune, qui représente en tout cas la loi, et c'est la plus virulente, c'est la plus active, c'est la plus agressive, c'est votre sœur, donc c'est à la fois une alliée, et c'est comme un loup que vous mettez dans la bergerie de votre film pour le faire avancer.
Anaïs, c'est ma sœur, donc moi je suis son premier supporter. Mon rêve, c'était de faire des films avec elle, et j'espère que je pourrai en faire d'autres. Mais il fallait que j'aie quelque chose à lui proposer. Et là, ça m'intéressait de lui proposer quelque chose qui ressemble pas du tout à ce qu'elle a l'habitude de faire. Et puis moi, je pressentais qu'elle pourrait s'amuser avec ça et aussi proposer quelque chose d'intéressant en jouant cette fille qui est ultra ambitieuse, assez agressive, mais c'est aussi sa fonction qui veut ça. Après, ça m'a paru juste parce que je suis allé beaucoup en cour d'assises quand j'ai préparé le film et j'ai observé que beaucoup d'avocats généraux, c'était des femmes relativement jeunes, qui étaient des substituts procureurs qui occupaient cette fonction. Et le fait d'être jeune, d'être une femme aussi, dans cette fonction-là, oblige parfois à faire un peu preuve d'excès de zèle. Elle doit se faire sa place, elle doit prouver qu'elle est légitime et donc elle est peut-être un peu plus virulente parfois qu'elle devrait l'être. En tout cas, elle est particulièrement acharnée et investie par sa fonction.
Pour ma part, Monsieur le Président, j'aimerais que l'accusé nous éclaire sur un point qui a été soulevé pendant l'interrogatoire de Monsieur Meurin.
Mademoiselle Bataille, levez-vous, je vous prie.
Mademoiselle, qu'avez-vous ressenti lorsque Flora Dufour s'est mise en couple avec Nathan Meurin ?
Rien. Enfin, j'étais contente pour elle.
Mais le fait qu'il devienne potentiellement l'ami de Flora n'avait aucune incidence sur votre désir pour lui ?
Non. D'ailleurs, à cette époque, je voyais d'autres garçons et j'ai jamais focalisé sur Nathan.
Mais vous éprouviez des sentiments pour Nathan Meurin ?
Non.
Vous n'éprouviez aucun sentiment pour le garçon à qui vous avez fait une fellation ?
Non, aucun.
Est-ce que vous diriez que vous êtes ce qu'on appelle une fille facile ?
Comment ça ? Dans ce cas, pourquoi on ne demande pas à Nathan si c'est un garçon facile aussi ? On l'a fait parce qu'on avait envie tous les deux, c'est tout. Si j'avais su que ça posait un problème à Flora, on ne l'aurait jamais fait. Mais sur le moment, on ne pouvait pas le deviner.
C'est aussi vraiment deux générations que vous filmez. C'est très important, les parents, donc Roche disait, mais et Chiara Mastroianni et cette jeune fille, Mélissa Gers, parce qu'on sent tout l'amour des parents, toute la bienveillance et le désir de comprendre. Mais malgré ça, il y a quand même un décalage immense et une forme d'incompréhension qui se dessine entre eux. Pourtant, des parents qui sont plutôt jeunes et dans le coup, hein, ils ont disons entre 40 et 50 ans, heureux je disais, mais et Chiara Mastroianni, c'est pas du, ils passent pas du tout pour des vieux parents, mais il y a malgré tout un fossé immense qui éclate pendant le procès et c'est ça qui se joue beaucoup aussi dans le film que vous filmez.
Le procès, il agit comme un miroir grossissant de phénomènes qui sont à l'œuvre. Et moi, mon désir au tout départ en faisant ce film, c'est de poser cette question: est-ce qu'on connaît nos proches? Est-ce qu'on connaît aussi bien qu'on le croit nos enfants? Je suis un jeune père, donc c'est une question qui inévitablement me taraude, même si elle ne se pose pas de manière aussi aiguë que dans le film. Mais inévitablement, le fait d'avoir une instruction et un procès, bah, ça fait un effet de loupe sur ces phénomènes. Et effectivement, il y a deux générations qui parfois se comprennent, parfois se comprennent pas, mais en tout cas qui fonctionnent différemment. Et je voulais mettre ça en évidence. Sans faire le procès d'une génération, chaque génération a ses raisons et son propre fonctionnement, c'est simplement un état de fait, mais montrer de quelle manière elles arrivent ou non à cohabiter.
Est-ce qu'il y a une scène notamment qui est très très frappante, c'est une scène de vidéo qui apparaît pendant le procès, une scène de fellation, voilà, d'une jeune fille à un jeune garçon, et on sent vraiment que les gens qui représentent la loi et que les parents sont vraiment comme des poules face à un couteau suisse. Ils ne comprennent pas ce qui se joue et ils prennent très au sérieux en même temps cette chose de l'adolescence qui est en même temps complètement légère, enfin un mélange de choses qui crée un décalage très grand.
Je pense que l'effet d'incompréhension, il est accentué par le fait que la protagoniste, elle a 16 ans au moment des faits, 18 ans au moment du procès. Donc elle a un âge aussi qui est extrêmement mystérieux, celui de l'adolescence, un âge aussi mouvant où on a du mal à savoir à qui on a affaire, puisqu'on est devant un être qui est encore en devenir. Et donc, c'est aussi pour ça que j'ai choisi d'être du point de vue de ceux qui l'entourent. C'est que pour moi aussi, cet âge agit comme un mystère. Ces jeunes adolescentes, qui plus est quand c'est des jeunes filles, sont à mes yeux un immense mystère. Et donc, on essaye tous de percer ce mystère. Et en cela, Mélissa Gers, c'est une actrice remarquable parce que pour moi, la gageure ou le pari du film, c'était de dire on va faire un film autour d'un personnage qui s'exprime extrêmement peu, mais qu'on passe son temps à observer, et on passe même son temps à essayer de décrypter ce qu'elle dit, ce qu'elle fait, ou simplement ses gestes. Et Mélissa Gers, elle avait cette force-là, cette intensité-là, qui fait qu'elle s'exprime peu, mais elle a une profondeur qui rend ce personnage à la fois insondable, mais pas opaque, totalement mystérieux. C'est ça qui m'intéresse chez elle.
Oui, complètement mystérieux. Et elle le reste jusqu'à la fin, c'est ce qui est très intéressant.
Voilà, c'était le but, et c'était l'intuition que j'avais, en tout cas, en faisant le film avec elle, et je pense que ça fonctionne. Elle a vraiment cette puissance et cette intensité-là qui fait que ça tient la durée et que le mystère s'épaissit et gagne même en complexité.
Alors, il y a une autre chose qui est intéressante, c'est le fait que vous ne filmez pas, on est donc à un procès d'assises, mais vous ne filmez pas ou très très peu les jurés. Et donc, c'est vraiment nous, les spectateurs, que vous mettez dans cette position.
Oui, bah, c'est tout à fait ça. On est vraiment mis dans la position de ceux qui observent cette immense joute, cette immense mise en scène, puisque un procès, c'est assez captivant pour un cinéaste, c'est que c'est déjà une vaste mise en scène avec son rituel, chacun qui joue sa partition, son propre rôle. Et bah, le spectateur, l'expérience qu'il va vivre en allant voir ce film, c'est celle d'être parmi les jurés dans un procès où il n'y a pas de preuve absolue et où donc c'est l'intime conviction qui va jouer, donc la confiance ou la croyance qu'on va chacun avoir pour la parole des uns et des autres. Et c'est par la parole que circule la vérité ou ce qu'on croit être la vérité.
Et c'est aussi un film sur la qui parle de la justice et qui croit en la justice à une époque où on est quand même dans une logique de tribunal populaire où les gens sont jetés en pâture avant même d'avoir été jugés et condamnés. C'est aussi un film qui parle de ça, qui dit il faut savoir raison garder et qui redonne aussi ses lettres de noblesse à la justice.
En tout cas, ce que je trouve très beau dans les tribunaux, pour être allé pas mal en cour d'assises pour préparer ce film, c'est le temps qu'on accorde à chacun et le temps qu'on accorde aux accusés aussi pour s'expliquer, le temps qu'on s'accorde pour les comprendre. J'ai pas du tout eu l'impression d'avoir affaire à une justice à l'emporte-pièce, j'ai pas du tout eu l'impression qu'on jetait les gens en pâture, au contraire. Et le cinéma aussi, il propose une autre temporalité par rapport au flux incessant qu'on a dans les médias avec les réseaux sociaux, etc. Un film, ça propose aussi une autre temporalité. Et donc, voilà, je trouvais intéressant de traiter par le médium du cinéma cette arène-là, le tribunal.
Donc le film va être projeté aujourd'hui, vendredi et samedi au Festival d'Angoulême. Est-ce qu'il y a une date de sortie pour
Le 5 février. Donc,
le 5 février.
Vous demandiez tous ce que vous alliez faire le 5 février 2020. Maintenant, vous savez.
Merci beaucoup, Stéphane Desmoustiers.
Le Mac de l'été sur France Inter.
Avant de nous quitter, Olivier Rollin, je vous propose d'écouter une voix bien connue des auditeurs de France Inter, c'est celle d'Edouard Baird, à qui nous avons rendu visite au Théâtre Antoine tout à l'heure, avant la reprise, ce soir, de son spectacle « Les élucubrations d'un homme soudain frappé par la grâce ». Bonjour Edouard Baird, on est au Théâtre Antoine,
oui.
Vous avez la première ce soir de la reprise de votre spectacle « Les élucubrations d'un homme frappé par la grâce ». Comment vous vous sentez en ce jour de première, de reprise?
Alors, le titre est extrêmement précis, c'est « Soudain frappé par la grâce », parce que c'est un titre qui frise tout le temps le ridicule, parce qu'annoncer qu'on va être frappé par la grâce, faut déjà toucher, je voulais toucher par la grâce, il y avait un côté un peu, c'était pas assez frappé par la grâce, on voit qu'on est à la limite du grotesque, et lucubration, c'est un mot qui est très difficile à articuler, donc on sent bien que le mec qui l'a choisi pour son titre est fatigant.
Et un peu maso.
Et un peu maso, et puis un homme, il y a un truc comme ça, bon. Alors, moi je suis très enthousiaste parce que j'avais adoré le jouer avant l'été. Et l'interruption d'été, je ne sais pas pourquoi elle est obligatoire. On imagine que les gens ne vont pas aller au théâtre l'été, je crois, qu'il fait trop chaud. Donc on m'a interrompu et je reprends le dialogue avec le public. C'est des phrases un peu démagos des acteurs.
Alors c'est un spectacle où il est question d'un acteur en fuite.
Oui, enfin, à un moment, j'hésitais sur un homme politique ou sur un écrivain au moment de recevoir un grand prix. C'est le moment où, tout à coup, voilà, c'est la fugue. On est à un moment et tout à coup, on n'assume plus du tout la vie sociale et on n'y arrive plus. Et il y a un moment clé comme ça, quelqu'un qui ne remonte pas chez lui, quelqu'un qui va sortir le chien, qui rentre 20 ans après ou qui descend chercher des allumettes. Ou j'imaginais Patrick Modiano qui va chercher son Nobel à Stockholm et le matin, il disparaît dans les rues de Stockholm parce qu'il ne veut pas exister comme personnage social. Ou j'imaginais un homme politique qui, avant discours clé, il dit « Oh non, j'en ai marre de me faire insulter ». Voilà. Et là, il se trouve, voilà, là, c'est quelqu'un qui est en fuite et qui vient se réfugier dans ce théâtre. Et donc, c'est le moment où sa vie fait basculer. Il prend un peu le public à témoin. J'y retourne, j'y retourne pas. Pourquoi on vit? Pourquoi on se montre? Pourquoi on agit? À quel moment je suis vraiment moi? Voilà. Ces interrogations sur quand est-ce qu'on est soi et pourquoi on fait les choses plutôt que rien. je joue avec vraiment la présence physique et réelle du public qui est là. Je m'adresse à eux. Il y a plein de moments où il n'y a plus de quatrième mur, comme ça, comme on dit, il faut un peu mouiller la chemise, c'est formidable.
Alors, est-ce que vos élucubrations radiophoniques, on pourra les retrouver cette année sur France Inter, Edouard Baird?
Alors avant, je faisais tous les dimanches soirs, mais en fait, je me suis aperçu que c'était un rythme qui m'allait pas trop, parce que je trouve que la radio, c'est passionnant quand c'est tous les jours, ou alors d'inventer autre chose. Donc je leur ai demandé si je pouvais faire autre chose. On s'est dit peut-être que j'allais faire un peu des nuits dans l'année, dans des endroits qui me font rêver. Alors dans l'année, je vais faire 3-4 nuits dans des villes francophones, parce que ça me fascinait, la francophonie, comme beaucoup de gens. Donc j'ai essayé de faire une nuit à Alger, une nuit à Port-au-Prince, une nuit au Canada, peut-être une nuit à Liège, peut-être une nuit dans une ville suisse, et de faire 2-3 heures de direct en déambulation dans cette ville, en préparant un peu, en rencontrant des gens avant, voilà. Peut-être.
Sur le même principe que les lumières du dimanche soir, mais...
Oui, mais c'est pas exprès le principe, en fait. C'est des émissions de rencontres, de conversations, quoi, de curiosité, un peu, voilà. Donc... on va faire ça, et puis j'ai un autre rêve un peu avec Inter, c'est de l'été prochain de faire la tournée des Cafés de la Gare sur 15 jours de suite, un peu comme un Tour de France, de m'arrêter sur une France qui serait entre le centre jusqu'aux Cévennes à l'est et à l'ouest, jusqu'au Limousin, et de se balader comme ça dans la France du train corail, et de m'arrêter chaque soir et faire une émission en direct avec les gens dans des villes, ce qu'on appelle les villes moyennes, c'est-à-dire, je sais pas, entre 20 000 et 60 000 habitants, et faire tous les soirs. Voilà, parce que ça, c'est chose formidable d'être tous les soirs. Et là, c'est comme un spectacle d'être dans un café et que les gens peuvent venir causer tout ça. Donc c'est deux projets différents. Alors, ce qui est chouette, c'est que, voilà, j'ai l'impression qu'ils sont souples et que tant qu'on ne vous a pas dit non, c'est qu'on vous a dit oui.
Merci beaucoup, Edouard Baird. On vous souhaite une très belle première ce soir.
Écoutez, merci. Merci pour tout, bien sûr. Tout ce qu'on voit, tout ce qu'on ne voit pas, tout ce qui a été dit, tout ce qui n'a pas été dit. Merci pour la face lumineuse et la face obscure. Merci pour la stagnation et le mouvement. Merci, Anna.
Voilà. Olivier Rollin, il était assez anxieux, en fait, Edouard Baird, en cette veille de première. Est-ce que... Enfin, en ce jour de première, puisque c'est ce soir, dans quelques heures, que son spectacle va commencer. Vous, à la sortie, avant la sortie d'un livre, vous êtes anxieux aussi?
Si je disais que je ne l'étais pas, personne ne me croirait.
Si.
Et en tout cas, peut-être mon attaché de presse qui écoute ne me croirait pas. Oui, non, enfin, je suis quand même, comme vous l'avez dit, pour me présenter, je suis un vieux briscard, donc je n'ai plus tout à fait ces émois épouvantables. Mais je suis, d'une manière générale, dans la vie, je suis un anxieux. Je suis anxieux quand j'écris, je suis anxieux quand je fais des tas de choses, je suis anxieux quand un livre sort, oui.
Merci beaucoup Olivier Rollin d'avoir été en direct avec nous sur France Inter. Je rappelle que votre magnifique livre Extérieur Monde paraîtra le 29 août chez Gallimard. Magnifique livre, hein. Cette émission a été préparée par Élodie Royer et Marion Philippe avec l'aide de Maëlan Loaec. Elle a été réalisée par Clément Baudet avec à la prise de son aujourd'hui Rémi Sistiaga. Après le journal, vous avez rendez-vous avec Éric Delvaux pour le téléphone sonne. Bonne soirée sur France Inter.